Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape ce jeudi était tourné vers son pays natal. Il a écrit une lettre aux évêques d'Argentine à l'occasion de leur assemblée plénière, regrettant de ne pouvoir être parmi eux, mais les invitant à la mission. Le pape François qui a également fait part de son soutien aux maires de la place de Mai, ces femmes qui luttent depuis 30 ans pour que les disparus de la dictature ne soient pas oubliés. Le patriarche d'Antioche des Melkites, Grégoire III Lahame, était à Rome ce jeudi. Il a rencontré le pape François pour lui parler de la terrible situation en Syrie. Nous entendrons le patriarche appeler à la paix pour en finir avec la spirale de la violence. Dans ce magazine, nous reviendrons aussi sur ce drame au Texas, après l'explosion d'une usine d'engrais. Et puis nous irons en Centrafrique, où la situation sécuritaire est toujours très fragile. Nous entendrons l'archevêque de Bangui. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Un parfum d'Argentine flottait ce jeudi au Vatican. Le pape François a envoyé un message à ses frères évêques argentins à l'occasion de leur assemblée plénière. Une assemblée à laquelle il aurait dû participer en tant qu'archevêque de Buenos Aires. Mais entre-temps, le cardinal Bergoglio, on le sait, était élu au siège de Pierre. Dans son texte, le pape reprend l'une de ses idées forces. Il est nécessaire de sortir de soi-même. Xavier Sartre.
Le pape envoie aux évêques argentins un message de Rome pour s'excuser tout d'abord, avec un brin d'ironie, de son absence empêchée, dit-il, par des tâches assumées récemment. Mais après ce clin d'œil à ses confrères évêques, François leur parle aussitôt de la nécessité de placer leur pastorale et celle des prêtres sous le signe de la mission, leur conseillant d'avoir pour référence non seulement le document d'Aparecida, mais aussi un autre texte. Prendre le large de la conférence épiscopale argentine. Une église qui ne sort pas d'elle-même, écrit le pape, tôt ou tard, tombe malade dans l'atmosphère viciée des pièces dans lesquelles elle s'est enfermée. Et une fois encore, il invite à sortir de nous-mêmes pour aller vers les périphéries existentielles. Depuis le début de son pontificat, cette idée est devenue l'un de ses leitmotivs. Et s'il est vrai qu'en sortant de chez soi, on risque peut-être un accident, constate le pape, je préfère mille fois une église accidentée que malade. Pour lui, la maladie typique de l'Église est l'autoréférentialité, le repliement sur soi-même, et d'évoquer ainsi un narcissisme qui conduit à la mondanité spirituelle et au cléricalisme sophistiqué, qui empêche de faire l'expérience de la douce allégresse réconfortante d'évangéliser. Le pape conclut son message en saluant le peuple argentin et en embrassant fraternellement ses confrères évêques, en leur demandant de prier pour lui afin qu'il évite de s'enorgueillir et sache écouter la volonté de Dieu. Et non la sienne.
Et durant leur assemblée plénière qui se tient ces jours-ci, la centaine d'évêques y participant ont publié un communiqué intitulé « Justice, démocratie et constitution ». Les évêques argentins qui demandent au gouvernement plus de temps, davantage de consultations, une analyse et un débat plus approfondi à propos des projets de loi cruciaux pour les institutions du pays. Il est habituel que l'Assemblée publie un communiqué à la fin de sa réunion, mais cette fois, les évêques ont voulu s'exprimer avant, vu l'importance et le caractère critique du moment que connaît la vie politique du pays. Sont en effet en discussion différents projets de loi concernant les thèmes cruciaux pour la démocratie, tels que la réforme de l'autorité judiciaire, que le gouvernement tente actuellement de faire approuver au travers d'une procédure qualifiée d'express, de manière à ce que le texte soit adopté rapidement par les deux chambres du Parlement. Nous sommes conscients, explique la conférence épiscopale argentine, qu'en traitant rapidement les réformes significatives, on encourt le risque d'affaiblir la démocratie républicaine établie par notre Constitution en ce qui concerne l'un de ses aspects fondamentaux, à savoir l'autonomie de ses trois pouvoirs. Le pape, très attaché à son pays d'origine, a répondu aux maires de la place de Mai, ces femmes qui luttent depuis 30 ans pour que les disparus de la dictature ne soient pas oubliés. Monseigneur Antoine Camilleri, le sous-secrétaire du Saint-Siège pour les rapports avec les États, a écrit à Hebe de Bonafini, la présidente de l'association. Le prélat répondait ainsi à la lettre qu'elle adressait le 21 mars au nouveau pape pour saluer notamment l'action du cardinal Bergoglio dans les bidonvilles de Buenos Aires et lui demander de soutenir tous ceux qui, dans un monde injuste, luttent pour abolir la misère. Dans sa lettre, Monseigneur Camilleri explique que le pape priait Dieu pour que son ministère puisse aider à l'éradication de la pauvreté dans le monde, de manière à ce que cesse la souffrance de tant de personnes. Il dit aussi apprécier ce que font les maires de la place de Mai en faveur des plus défavorisés et de leurs justes attentes. Le pape prie enfin le Seigneur afin qu'il pousse les responsables politiques à combattre le fléau de la misère par des moyens efficaces, équitables et solidaires. L'association des maires de la place de Mai a été créée en 1977 par des mères argentines qui ont dénoncé la disparition de leurs enfants sous la féroce dictature militaire qui a ensanglanté le pays de 1976 à 1983. Chaque jeudi, ces mères de disparus manifestent sur la place située devant la résidence du gouvernement argentin afin de dénoncer les crimes de l'époque de la dictature et maintenir la mémoire des disparus.
The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women.
Le pape François a publié un tweet en anglais ce jeudi demandant à ses followers de s'unir à lui dans la prière pour les victimes de l'explosion d'une usine d'engrais aux États-Unis. Une puissante explosion a eu lieu mercredi soir dans une usine d'engrais près de Waco, au Texas, soufflant de très nombreuses habitations aux alentours et faisant de nombreux morts et blessés. Le pasteur Ed Karasek est à la tête de la paroisse de l'Assomption à West, le lieu du drame. C'est une communauté très unie ici, tout le monde se connaît et se soutient. Les gens dont la maison a été détruite ou endommagée ont à disposition des lieux où se reloger. Nous avons perdu 5 pompiers et les gens sont vraiment unis pour aider et prendre soin de leurs familles. Nous avons organisé des messes en mémoire des victimes et d'autres églises ont offert des messes pour nous. Il y a une véritable solidarité, les chrétiens veulent faire des dons aux familles dont les maisons ont été détruites. La clinique a été évacuée, les patients sont à présent de bonnes mains et sont traités à l'hôpital de Waco, de Temple, non loin d'ici. Je crois que les chrétiens peuvent prier pour nous et s'ils veulent faire des dons, nous les reverserons aux familles qui en ont besoin. Des propos recueillis par Charles Collins, notre confrère de la rédaction anglophone. Restons un instant aux États-Unis. C'est un grave revers pour le président américain Barack Obama. Son projet de loi renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des acheteurs d'armes a été rejeté par le Sénat mercredi soir. 54 sénateurs seulement ont voté en faveur de la mesure alors que 60 voix étaient requises. Le chef de la Maison-Blanche n'a pas caché sa colère, évoquant un jour de honte pour Washington. Au lieu de soutenir ce compromis, le lobby des armes et ses alliés ont volontairement menti à propos de cette loi, a-t-il accusé, en référence au puissant NRA, le lobby des armes à feu dans le pays, qui a fait campagne pour réguler au minimum le contrôle de ces armes. L'Église américaine peut elle aussi être déçue. Les évêques du pays ont en effet appuyé la réforme. Le 8 avril dernier, Mgr Stephen Blair, l'évêque de Stockton et président du comité Justice et Développement Humain à la Conférence des évêques, avait envoyé une lettre au Sénat demandant de promouvoir des lois qui réduisent la violence de ces armes à feu et sauvent des vies humaines dans les maisons et communautés de notre pays. Il avait adressé un appel au secours au pape François le vendredi saint pour la Syrie. « Soyez notre Saint Siméon sur notre chemin de croix », avait-il lancé. Grégoire III, l'âme, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem, des Melkites, attendait un geste, une initiative, une feuille de route du Saint-Père. Un message qui avait été entendu par le pape François, qui, lors du dimanche de Pâques, avait prié pour la paix au Moyen-Orient et en particulier pour le conflit en Syrie. Grégoire III, l'âme, qui était reçu ce jeudi en audience par le pape, et nul doute que le destin de la Syrie était au cœur de leur entretien. Face au drame syrien qui n'en finit pas, le patriarche appelle à la paix pour enrayer la spirale infernale de la violence. Nous l'avons rencontré. Écoutez-le, il est au micro de Manuela à Fiji.
À partir de cet appel au Saint-Père, j'ai lancé un appel plus universel à tous les chefs, rois et président des différents États, soit arabes, soit en Occident, soit en Amérique, où j'ai dit, voilà, il faut faire un point final à la guerre. On ne peut pas continuer avec les armes, armements. On ne parle malheureusement en Europe, en France, en Angleterre, en Amérique, que armée ou n'est pas armée. C'est vraiment un péché, un grand péché, voyez, que ne penser armée ou pas armée. Il ne parle pas d'efforts beaucoup plus sérieux et plus réels et plus efficace pour la paix. C'est vraiment une situation incroyable que l'homme, la femme, l'être humain n'est pas dans leur compte. Armé ou pas armé, c'est pas ça. Nous sommes les victimes de votre hésitation, faire la paix, pas faire la paix, avec tel ou tel groupe des opposants, ou bien des belligérants, ou bien des armées, ou bien des groupes armés ou terroristes. Autant de problèmes qui sont vraiment, disons, à la marge. Nous avons, par exemple, jusqu'à maintenant, à peu près 1 million de chrétiens qui sont morts, sans compter les 100 000 victimes qui sont tombées sur la terre de la Syrie. Et bien, tout cela comme si rien n'existait. Il y a eu 3 morts à Boston, n'est-ce pas, dans ce marathon, et des blessés, tout le monde. Eh bien, il y a eu, le même jour presque, en Irak, 42 tués et 194 blessés. On n'a pas fait cas tellement de cette tragédie. Donc, il y a une injustice dans la considération, dans l'appréciation des situations. Donc, nous mourons, nous sommes tous les jours victimes du chaos, d'être enlevés, d'être impliqués dans une explosion. L'explosion peut toucher une école, une usine, une université, des gens qui passent, une église, et on dit armée pour armée. Ce n'est pas le problème armée ou pas armée. Le problème est comment faire la paix dans cette terre qui souffre justement, comme j'ai dit au Saint-Père, nous sommes sur un chemin de croix depuis 2 ans.
Ce conflit en Syrie touche déjà les pays avoisinants, le Liban, la Jordanie, Israël, etc. Quelle perspective est-ce que vous voyez pour cette région dans un futur immédiat ?
Nous attachons avec beaucoup d'espérance à cette rencontre qui aura lieu, on dit, le mois de juin, entre Poutine et Obama. On espère que ces deux pays puissent se mettre d'accord comment sortir de la crise et non pas comme armée ou pas armée. Si on reste dans la dialectique armée ou pas armée et qui armée, c'est vraiment plus de victimes et plus de malheurs et plus de souffrances dans le Moyen-Orient entier et plus de feu. Croyez-moi que le Liban est vraiment est plus en danger maintenant que la Syrie parce qu'il est plus fragile, il est plus divisé, il est petit et ses problèmes sont graves. Ça brûle tous les jours à Beyrouth. À chaque moment, on est menacé. La Jordanie est encore épargnée. La Palestine, en tout cas, souffre. Gaza souffre. Ils sont divisés. L'Irak est toujours traumatisé, est toujours victime des explosions, des attentats, des divisions intérieures. Donc, tous les pays. Et c'est pour cela, faire la paix en Syrie, croyez-moi, c'est faire la paix dans le Moyen-Orient entier. C'est le meilleur pas pour l'avenir de la paix en Palestine et de la solution du conflit israélo-palestinien. Les relations Orient-Occident sont tous conditionnées par une bonne solution de paix et égale et équitable du problème de la Syrie.
Partons en Centrafrique où la situation politique est toujours aussi instable et où l'insécurité est grandissante, en particulier à Bangui, la capitale. Le pouvoir issu de la coalition rebelle du Séléka n'est pas parvenu à endiguer pillages et violences. Le week-end dernier, des opérations de ratissage d'armes dans un quartier de la capitale ont tourné au drame avec plus de 20 personnes tuées. Selon l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalanga, pas moins de 1000 personnes ont trouvé refuge dans l'hôpital de Bangui. Parmi les réfugiés, a expliqué l'archevêque à l'agence Fides, se trouvent de nombreux enfants et personnes âgées qui viennent s'ajouter aux patients déjà pris en charge à l'hôpital. Écoutez le témoignage de Mgr Nzapalanga. Il est interrogé par Marie Duhamel.
Normalement, le couvre-feu doit commencer à minuit, mais à partir de 17h-18h, on n'avait plus beaucoup de gens dans la ville. Ça veut dire que les gens savent qu'il n'y a pas de sécurité. Il faut le dire. Actuellement, dans le quartier Boirabé, j'ai vu un grand camion et on sortait des frigos, on sortait des congélateurs pour les emporter. Ce qui veut dire que le pillage continue encore. Alors, je ne peux pas concevoir qu'en plein jour, que les gens aillent piller et personne au niveau de l'autorité ne puisse agir. Tout le quartier hier s'était vidé parce qu'il y avait une peur bleue comme quoi on allait brûler le quartier. Moi-même, j'ai accompagné des enfants à pied pour les faire traverser la route, car tous ces enfants avaient peur, y compris les parents. Des psychoses pleines d'angoisse. Et je me pose des questions. Comment peut-on accepter de traumatiser les plus petits enfants qui sont aujourd'hui et le demain d'un pays, rien qu'avoir des armes et des coups de feu et des véhicules qui roulent à vive allure, tous ces enfants ont peur. Pas de climat de confiance, mais avec qui ? On va travailler. Ce sont des questions que les nouveaux responsables doivent se poser eux-mêmes. Il est temps de créer ce climat de confiance. Or, actuellement, nous avons l'impression que certains éléments de Séléka, ils ont tout le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Un moment est venu pour que eux, qui les ont amenés, puissent les discipliner, puissent les caserner, les cantonner et les désarmer, afin que la population puisse vaquer librement à ses occupations.
Mais est-ce que c'est un fait avéré que ce sont les rebelles du Séléka qui ont commis les pillages et des violences ?
Ce que je sais, je vois des véhicules en plein jour marqués dessus Séléka et qui s'arrêtent pour piller. Si ce sont de faux Séléka, eh bien, maintenant, aux responsables, quand on les appelle, doivent venir les désarmer. Or, pendant 2 heures, 3 heures, ces gens sont là en train de commettre des forfaits. On appelle, personne ne bouge. Ou il y a complicité, ou il y a laisser-faire, ou bien les gens sont débordés.
Ces populations qui ont fui tous ces quartiers, est-ce qu'elles ont de quoi se loger, de quoi se nourrir aujourd'hui?
De mémoire de centrafricains, je n'ai jamais vécu cela dans ma vie. Il s'agit des gens qui fuient pour se réfugier dans des hôpitaux. L'hôpital communautaire, cet hôpital accueille 1400 personnes pleines de désolation. Les petits-enfants amènent le sol, qui n'ont rien à manger. Une maman m'a dit hier, je n'ai mangé qu'une seule mangue toute une journée. Voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont dans les hôpitaux en train de préparer des repas pour offrir à leurs frères et sœurs sans distinction de religion, ni de race, ni de région, car tout homme est créé à l'image de Dieu et le message du Christ est un message universel.
J'ai entendu dire que la cathédrale de Bangui, que les fidèles avaient été eux-mêmes pillés dimanche. Est-ce qu'on peut parler de tensions religieuses aujourd'hui?
Cette crise militaro-politique n'est pas religieuse. La République centrafricaine est un pays laïque. Il y a la liberté religieuse. Et chacun a le droit de professer sa foi. Maintenant, de vouloir imposer ou introduire l'enjeu religieux dans les sphères politiques, nous disons non. Et nous le disons haut et fort. Ceux qui tendent ce genre de piège ou qui veulent jeter ce genre de peau de banane, nous devons être vigilants pour les écarter, les isoler. Voilà pourquoi nous adressons un message solennel à tous les responsables qui puissent encore prendre leurs responsabilités, dit ouvertement, hors de question de poser des actes, des injustices à l'égard des chrétiens, hors de question de maltraiter des pères et des sœurs, hors de question de commettre encore des injustices à leur égard. Quand on est responsable de tout le monde. Un président, il est président de toutes les religions, sans exception.
Mais est-ce qu'il y a déjà des frères, des sœurs, des religieux, religieuses qui ont été touchés par ces violences?
À l'intérieur du pays, même à Bangui, nous avons des cas. Je vous donne un exemple. Un père Lazaris, il a été agressé quand il laissait les cassons rentrer dans Bangui. Il était blessé à la main, blessé au pied. On l'a soigné. Il y a eu des coups de fusil. Il était obligé de se mettre par terre aussi. On a pillé aussi dans sa maison. Alors, il a été déshabillé pour rester là. Vous voyez, ce sont des actes d'humiliation que nous ne pouvons pas accepter ni tolérer. J'exprime mon indignation devant ce genre de comportement déshumanisant. Nous espérons que ce genre de comportement sont des comportements isolés et nous les avons condamnés fermement. Moi aussi, je n'ai pas le droit de proférer des menaces ni agresser un musulman. Je dois le respecter car c'est un centrafricain comme moi, c'est un être humain comme moi et je ne peux pas le considérer comme un animal ou une bête de somme.
Si je vous posais cette question-là, c'est qu'on entend récemment, de plus en plus souvent d'ailleurs, des personnes religieuses ou laïques qui vivent en Centrafrique et qui nous disent que les gens du Séléka ne parlent pas le Sango, que ce sont des musulmans et des arabes et que c'est ça qui leur fait peur, c'est que ce sont des étrangers qui voudraient s'imposer et imposer un islam rigoriste.
Cette peur, j'entends ça de mes agents pastoraux et je l'ai fait remonter aux responsables de Séléka. Ils me l'ont dit. Séléka, composé de 90% de musulmans, eh bien, ils sont arrivés à Bangui. À eux maintenant de dire clairement leur objectif était politique et non religieux. Et s'ils ne disent rien, ce qu'ils pourraient entendre ou laisser croire qu'ils sont complices ou ils valident. Et je n'ose pas m'aventurer ce chemin de penser qu'ils sont en fait logiques. Nous leur demandons simplement de respecter cela. Et ces gens qui arrivent, qui sont majoritaires, qui parlent arabe, moi, j'ai été clair, je l'ai dit et je le redis, tous ceux qui ont aidé à prendre le pouvoir, il est temps pour que les responsables de ce pays leur demandent ouvertement de quitter, de regagner leur pays et d'être contenus quelque part, de jeter les armes, de laisser les Centrafricains vaquer librement à leurs occupations. Ils ont aussi le droit de vivre libre dans leur pays.
C'était l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalinga. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.